Cette balado-diffusion a été enregistrée à la conférence sur l'eau Sommet Bleu.
Et ensuite, Maude Barlow. Alors, merci.
Maude, j'ai des notes sur toi, mais je pense qu'elle vous a été présentée déjà hier soir. Elle est présidente du Conseil des Canadiens et j'ajouterai brièvement qu'elle a reçu des douzaines, voire des centaines de prix, y compris une douzaine de diplômes honorifiques. Elle est auteure de plusieurs livres. Et il y a trois choses au sujet de Maude que je sais, que vous savez peut-être ou non. Maude aime le jogging. Elle est très près de la famille. Dévouée, grand-maman aussi, et fille de deux parents qui ont eu énormément d'influence dans sa vie. Elle sait s'amuser. Elle est la présidente de conseil la plus amusante avec qui j'ai travaillé. Elle est également militante, très dévouée. Elle travaille très fort et je pense qu'elle fait ce que tout citoyen peut faire dans la vie, c'est donner de l'espoir aux autres.
Maude, il y a 10 ans, nous étions ici, on a créé notre mouvement Au secours aux aguets. Nous savions bien que ce qui se passait au Canada était relié à ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Je me souviens du moment où nous étions ensemble au deuxième forum mondial sur les eaux, à peu près un an après la création de notre coalition Au secours. Et nous voulions rencontrer les délégations gouvernementales pour faire du lobbying au Forum sur les eaux, pour parler de cette question de l'eau, un droit fondamental de la personne. Et le gouvernement fédéral a résisté avec force, comme c'est toujours le cas. Je me demande si tu pourras nous dire où se trouve le gouvernement sur la scène internationale? Qu'est-ce qui se passe sur la scène internationale? Pourquoi cette opposition à l'idée de droit à l'eau comme droit fondamental? Merci de cette présentation. Et oui, j'adore mes petits-enfants. J'aimerais bien vous parler de mes petits-enfants, mais ce serait ennuyant. Oui, à la grande honte du Canada, nous ne voulons pas appuyer le droit de l'eau, le droit à l'eau comme un droit fondamental de l'homme. Le gouvernement va vous donner toutes sortes de raisons pour cette objection. Ça veut dire que le Canada serait obligé de partager notre eau avec les États-Unis et c'est de la foutaise. Nous avons des avis juridiques, des conseils juridiques, des spécialistes aux Nations Unies qui ont dit que quand on signe un traité avec les Nations Unies, ça n'empêche pas un pays de partager ses ressources avec un autre pays. La vraie raison pour le Canada de ne pas signer ce document aux Nations Unies, c'est que ce serait en conflit avec la position du gouvernement du Canada comme quoi l'eau n'est pas un droit fondamental de la personne, mais c'est une denrée commerciable. Et je pense que maintenant, les autres partis, sauf les conservateurs, sont peut-être prêts à changer d'opinion, changer d'avis. Mais c'est vraiment troublant. J'ai joué un rôle de conseillère à la 63e Assemblée des Nations Unies et j'étais là comme lobbyiste et le Canada n'a même pas appuyé le mouvement. Paul l'a dit ce matin. En Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies a châtié le gouvernement du Canada à cause de sa position vis-à-vis de la conférence de Copenhague. Le Canada est parmi les pires pollueurs au monde. Et bien sûr, il y a les sables bitumineux du nord de l'Alberta qui polluent beaucoup. Alors donc, le gouvernement du Canada fait preuve de beaucoup de couardise et de lâcheté. C'est mortifiant pour moi Et moi, je ne comprends pas pourquoi les Canadiens n'ont pas honte aussi. Peut-être que les Canadiens ont honte, mais on ne voit pas ça dans les sondages. Alors, j'ai peur d'une majorité conservatrice. Nous avons du pain sur la planche et il faut toujours se préoccuper de la prise de position du Canada et de sa réputation internationale. J'ai deux choses à rajouter. Primo, nous travaillons activement, comme Blair l'a dit, nous faisons la promotion active on travaille contre les PPP et on lutte contre les ententes qui vont menacer notre système. Il y a maintenant un plan d'une entente économique universelle entre le Canada et l'Europe. Et il y a des pourparlers qui battent leur plein. Il y avait des négociateurs européens au Canada il y a 3 semaines environ. Et le gouvernement dit que ça va très bien et que le tout sera terminé en 2011. C'est encore une attente encore plus dangereuse que l'ALENA en ce qui concerne nos valeurs, des normes, des règlements, même nos dépenses au niveau local. Alors, ce sera une attaque frontale contre nos services publics. L'Europe a dit que l'Europe veut avoir accès à tout achat qui est à un niveau inférieur, donc au niveau municipal, par exemple. Ça veut dire que les commissions scolaires, les conseils scolaires, les universités, les hôpitaux, les services sociaux, etc., et même les services d'aqueduc. Vous n'êtes pas surpris de voir que Veolia et Suez, les deux plus importantes sociétés d'eau au monde, auront accès au Canada, directement au Canada. Alors, toute nouvelle infrastructure aura non seulement le gouvernement fédéral qui dit, bon, mais pour avoir accès à cet argent, il faut faire un PPP. Là, il y aura encore pire. Ce serait des immenses sociétés européennes transnationales qui auront accès à tout. Il y a déjà eu un tel système en Europe, système d'achat, où on est obligé maintenant de privatiser l'eau. L'Italie vient de promulguer une loi qui ouvre la porte au PPP pour toute infrastructure nouvelle et même pour tout renouveau de services. L'Italie n'a pas voulu le faire, mais l'Italie était obligée. En Italie, on veut avoir des eaux publiques, mais l'Italie était forcée de le faire, étant donné l'entente signée en Europe. Alors donc, il faut être très vigilant. Nous allons lancer une campagne contre cette entente universelle, commerciale entre le Canada et l'Europe. C'est la tempête parfaite des ententes, des accords commerciaux, qui est encore pire que l'entente interprovinciale. Et l'Europe veut donner des droits aux investisseurs que l'on trouve un peu dans l'ALENA, le chapitre 11, comme quoi toute société, n'importe où au Canada, peut être compensée, indemnisée, si on trouve des normes plus élevées ailleurs. Alors, c'est fini, tous ces efforts pour éliminer l'eau en bouteille. Ce ne sera plus possible. Et n'oubliez pas que la société Nestlé est une société européenne. Alors, Nestlé va s'objecter à toute élimination des eaux, de l'eau en bouteille, à toute réunion partout au pays. Et bien sûr, on va chercher toutes sortes d'exemptions. Et dans les efforts de stimulus aux États-Unis, on va éliminer tout afin de stimuler l'économie. Alors, Blair et moi, nous avons cherché les chiffres et nous croyons qu'il s'agirait d'environ entre 100 milliards et 200 milliards de dollars d'achats en cause ici, en jeu. Alors, c'est très dangereux. En dernier lieu, en plus de la privatisation, j'ai 10 façons de privatiser ou de menacer les eaux au Canada. On a parlé de ces accords commerciaux. Ça veut dire qu'une société qui fonctionne au Canada a droit aux eaux au Canada. Donc, les sociétés d'énergie dans le nord de l'Alberta, dans les sables bitumineux, peuvent maintenant réclamer les eaux. Si l'Alberta dit on va couper la moitié de l'eau, la société américaine peut pour suivre le gouvernement pour avoir une indemnisation massive. Alors, voilà un des résultats. Il y a aussi la question de l'eau en bouteille. C'est une grosse industrie au Canada. Il y a aussi le projet en Colombie-Britannique sur les rivières où on permet aux sociétés privées de l'énergie de contrôler les chutes d'eau en Colombie-Britannique. Le gouvernement a aussi un nouveau plan aux technologies hydrauliques. Ça veut dire que la technologie va nous sauver, etc. Oui, mais c'est cette lutte internationale sur la protection où on va tout mettre dans le paquet de la technologie. C'est très dangereux. Il y a aussi la question d'acheter des terrains où des pays achètent des terres, achètent des parcelles de terre et d'eau, surtout en Afrique. Et là, maintenant, on dit que le Canada devrait ouvrir tout le territoire du Canada et on devrait éliminer toute loi qui empêche des pays étrangers d'acheter quoi que ce soit. On dit maintenant, bon, on devrait permettre aux pays étrangers d'acheter nos terres, nos eaux. Et aussi, l'annexe comme quoi les sociétés minières peuvent nommer un lac ou autre source d'eau comme étant nécessaire pour l'utilisation des mines, pour détruire le lac ou l'autre source d'eau. L'Alberta est le premier pays, première province au monde à ouvrir des marchés de l'eau. Alors, c'est très dangereux et on devrait faire une campagne contre. Il y a aussi des demandes d'exportation d'eau. L'Institut économique de Montréal veut exporter de l'eau commerciale vers les États-Unis. Et ainsi, on veut mettre un peu d'argent provenant de ces ventes dans les bonnes œuvres en Afrique. Il y a aussi la question de l'eau virtuelle. On fait du travail chez nous, de la recherche chez nous, mais c'est l'eau qui sert à la production de l'énergie, activité minière, etc., qui est exporté. Alors, on ne sait pas la quantité en cause, mais c'est une forme de propriété privée. Alors, si vous pensez que c'est juste ailleurs que ça se fait, c'est pas vrai, ça se fait chez nous. Je pense que le Canada est sur le bord de la privatisation massive de l'eau. Et ça me rend très nerveuse. Je pense qu'il faut vraiment s'en préoccuper de façon très énergétique. Merci. Il nous reste une quinzaine de minutes environ. Maintenant, y a-t-il des questions? À l'écoute de ces quatre conférenciers, je dois avouer que je ne me retrouve pas parce qu'il y a trop de choses dans ce que vous nous dites. Si j'ai une question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se fait? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez, en quelques secondes, me dire pourquoi? Ça me semble incroyable. Il est incroyable de voir ça. Il est évident qu'il faut pas le faire. Pourquoi est-ce que ça se fait? Oui, mais c'est la prolongation nationale de la mondialisation et de l'ère de l'information. Le tout est expliqué par l'âge de l'information, l'ère de l'information. Les gouvernements sont lents à agir, le secteur privé est rapide à agir. Le secteur privé devance de loin le secteur public. Aussi, l'eau est essentielle pour toute vie. Alors donc, c'est essentiel pour nous tous. Alors, la possibilité de profit est incroyable. Dans la mesure où on peut privatiser l'eau, il y a la possibilité d'avoir des bénéfices incroyables, des profits. Alors, ces sociétés font du lobbying, elles influencent beaucoup nos gouvernements. Alors donc, on a des politiques publiques comme ça. En grande majorité, les Canadiens trouvent que c'est fou. Et cependant, ça existe toujours. C'est parce qu'il y a l'argent derrière. La situation dans les Premières Nations est aussi, je pense, le résultat de... parce que nous ne pouvons pas participer aux ressources de ces grands pays. Et c'est sans doute le résultat des accords signés avec les Premières Nations. On ne respecte pas les traités. Par conséquent, les Premières Nations ne méritent pas ça. Et je pense que les gens pensent que Tout va bien pour les Premières Nations, elles n'en ont pas besoin. Mais de fait, les Premières Nations vivent dans des conditions de tiers-monde. Et le Canada accepte cette réalité. Il y a des tiers-mondes dans ce monde. Je pense que Ralph l'a dit dans ses remarques préliminaires. Nous sommes passés de pension bien publique, non seulement pour l'homme, mais dans tous les domaines d'activité. Maintenant, il faut être concurrentiel. Et les fonctions du gouvernement ont évolué drastiquement depuis quelques années. Autrefois, c'était Agriculture Canada, et maintenant c'est Agroalimentaire Canada. Alors donc, même Santé Canada a, entre autres choses, le mandat de la promotion des services et la concurrence de ces sociétés de services de santé. Voilà pourquoi nous ne voulons plus maintenir des règlements touchant des fonds des régimes de retraite publique qui devaient faire la promotion des services publics tant au Canada qu'ailleurs. C'est changé. J'arrive du Chili et je dois vous dire que j'étais gêné de voir que là, un des résultats du régime Pinochet, c'est que l'eau est complètement privatisée. Il y a même des encans publics où des sociétés minières canadiennes sont là pour concurrencer les autochtones, les agriculteurs, etc. Ils viennent, ces compagnies viennent chercher l'eau. Alors, on va voir la même chose chez nous, en Alberta et ailleurs, au Canada. Mais aussi, les services sont privatisés. Le plus grand investisseur au monde, au Chili, c'est Homer's, le fonds des régimes de retraite des enseignants de l'Ontario. 37% de financement des services d'aqueduc privés au Chili est entre les mains du Homer's, le fonds de régime de retraite des enseignants ontariens. Alors donc, c'est indépendant de notre contrôle maintenant. Ce n'est pas juste quelque chose qui est très amorphe, non. Il y a la notion du bien public, l'eau et les autres services publics, c'est sont des services publics, des garants. Alors maintenant, ça devient quelque chose de privé. C'est vrai de partout. Là. Ces fonds de pension, fonds de retraite, et régimes de retraite, investissent au Canada dans des pays qui en font, dans des sociétés qui en font autant. Le régime de retraite des municipalités de l'économie britannique investissent aussi dans des PPP. Oui, et en économie britannique, les régimes de retraite publics sont aussi le moteur de l'ouverture de la Patagonie en Argentine. On va mettre des immenses barrages, cette nature sauvage intouchée, et voilà que le Canada est derrière le tout. Alors donc, ce qu'on peut faire ici, nous qui avons un régime de retraite, on devrait examiner les investissements faits par nos régimes de retraite. Et je suis certain que ça comprend aussi le régime de retraite du Canada. Alors donc, tous les travailleurs participent à ça. Là où il y a, où les syndicats ont plus de contrôle sur les décisions, on peut influencer les politiques. C'est aussi important pour les membres de le savoir. Et avec le régime de retraite du Canada, aussi, on devrait forcer le gouvernement à contrôler ses investissements afin de faire la promotion des intérêts publics. J'ai une question en français. Je vais lire en français, je vais traduire rapidement pour vous. Voici la question.
Éviter que l'eau et les services d'eau soient inclus dans les accords commerciaux, comment faire par exemple pour exclure l'eau, le faire exclure dans l'accord par exemple l'ALENA. So how what can we do?
Qu'est-ce qu'on peut faire d'abord pour éviter d'inclure les services d'aqueduc, des services d'eau dans les accords commerciaux internationaux? Qui sont en train de se négocier ou qui sont. Et que faire pour sortir les services d'eau là où ils sont déjà regroupés dans ces accords, comme l'ALENA à la mode? Voilà une bonne question pour toi. Il y a au moins 5 ou 6 questions que je vais essayer de regrouper ensemble et il nous reste peu de temps. Alors donc, je vous prie d'être bref. Mais on va revenir à tout ça dans les ateliers, dans les petits groupes. Brièvement, il faut sortir l'eau de l'ALENA. il faut aussi enlever autre chose, par exemple la possibilité des sociétés de poursuivre le gouvernement en vertu du chapitre 11. Je pense qu'il n'y a rien de bon dans cet accord universel entre l'Europe et le Canada. On devrait exempter l'eau. C'est une menace pour tous les services publics. À l'OMC, Stuart Trudeau et Leo Broderick du Conseil des Canadiens et autres Canadiens sont à Genève à l'heure actuellement à l'OMC, Organisation mondiale sur le commerce, pour mousser une campagne pour enlever l'eau de l'OMC. C'est un thème généralisé, mais il faut l'enlever de tous les accords. J'ai une question touchant l'eau et les Premières Nations. Irving a peut-être la réponse. Est-ce que les Premières Nations, ces collectivités, et aussi sans doute l'Assemblée des Premières Nations, est-ce que ces groupes seront en mesure de résister au PPP, étant donné tout ce que nous avons déjà vu et la présence des voitures du secteur public? Est-ce que les collectivités des Premières Nations vont continuer à exister? Et il y a d'autres exemples où la résistance au PPP a réussi un peu parce qu'il y a eu des partenariats publics, des partenariats entre les collectivités des Premières Nations et des services publics municipaux ailleurs, à côté. Connaissez-vous des exemples comme ça? Mais c'est les PPP et les Premières Nations. Merci, Morna. C'est effectivement un sujet important pour les Premières Nations. Le gouvernement fédéral et, par le truchement, le ministère des Affaires indiennes et du Nord a maintenant créé un secteur, un service pour s'en occuper. Et nous voulons réaliser le tout dans les Premières Nations. Comme je l'ai déjà dit, le niveau de pauvreté absente de développement économique dans ces collectivités qui parfois sont très loin des centres démographiques. Beaucoup de nos Premières Nations sont dans le Grand Nord, et donc il n'y a pas d'accès au développement économique. Et donc un PPP veut dire qu'il faut hypothéquer ses sources de financement pour 10 ou 20 ans. Et souvent, ça les met tout simplement dans le trou, dans le rouge. Une des questions importantes pour nous, c'est le plafond de 2% établi pour le financement du gouvernement fédéral. 2%, c'est à peine suffisant pour se maintenir l'inflation. Alors donc, les Premières Nations ne peuvent pas faire des PPP. Les industries privées regardent tout simplement le total, les bénéfices. Elles se foutent de la source de l'argent. Et les Premières Nations sont obligées d'hypothéquer leur avenir de financement pour ce faire. Alors donc, il y a d'autres problèmes que nous avons. Il y a la question de la responsabilité fiduciaire du gouvernement pour offrir des services aux Premières Nations en vertu des traités. Ça ne veut pas dire que dans des collectivités où on a accès au développement économique, il y a Premières Nations Osseuse, Number Two et une couple d'autres, et peut-être quelques Premières Nations en Vancouver ou en Colombie-Britannique. Ce sont de bons exemples des Premières Nations qui peuvent aller de l'avant. Alors, combien de ces actions sont des PPP, je ne sais pas. Mais il faut faire très attention ici, parce qu'ils font un partenariat égal, d'égalité. Mais bien sûr que nous avons des graves problèmes d'infrastructure et il faut trouver financement ailleurs. C'est vrai. Quand on parle de partenariat public-public, il y a des ententes d'utilisation conjointe. Par exemple, en Colombie-Britannique, il y en a un tel accord entre la bande Penticton et la ville de Penticton en ce qui concerne le service des égouts. Il y a donc une façon d'avoir un accord sur le financement et le partage des ressources humaines. Alors, si la municipalité a des gens qui sont bien formés, qui savent faire fonctionner le système, ces gens-là peuvent travailler avec la collectivité autochtone pour partager cette expertise. Et il y a plusieurs accords de cette nature-là au Canada.
Bon, on a presque plus de temps. J'ai encore beaucoup de questions. Alors, premièrement, je vais faire une suggestion. Peut-être pas tout à fait correcte, mais bon, c'est bien d'avoir les questions par écrit parce qu'il y a peut-être d'autres moyens de vous donner des réponses par le rapport de la conférence ou sur le site web. Ça, c'est certain qu'on peut le faire. Alors, on peut donc s'inspirer des compétences que nous avons ici avec nos panélistes et les autres de la journée pour peut-être organiser une séance de questions et réponses à notre conférence. J'aimerais vous donner à chacun de vous quelques secondes pour que il y a eu quelques questions sur le système électoral. Où sont les partis politiques? Quelle est leur position? Peut-on espérer influencer le gouvernement fédéral sur toutes ces questions? Puisque c'est toujours le premier à franchir la ligne d'arrivée qui a le haut du bâton, mais une chose qu'on pourrait faire, à votre avis, à titre de citoyen, pour changer la situation de l'eau. Maude. Je vais rattacher cela à la question de politique. Je l'ai dit à quelques reprises, je suis très, très inquiète de la possibilité d'une majorité conservateur parce que je pense qu'on verra à ce moment-là le vrai Stephen Harper. Je l'ai étudié il y a quelques années quand il était encore membre du Parti réformiste. Et j'avais cité des choses horribles que lui avait dites dans le journal de Toronto. Et on m'a demandé souvent où j'avais pris ces citations. Et quand je suis retournée sur l'Internet pour voir, tout avait été effacé. C'est évidemment une page de l'histoire qu'il aimerait bien voir effacée, mais c'est quelque chose dont on doit se souvenir. Et parce qu'il voulait absolument détruire le système de santé publique. Et je pense qu'on a une situation très dangereuse, pas seulement avec l'eau, mais pour les services publics de façon générale, s'il devait y avoir une majorité gouvernement Harper. Nous avons pris une position très proactive sur l'eau comme droit de la personne. Le Bloc aussi, comme les néo-démocrates, sont très positifs. Ils ont pris une assez bonne position sur la façon de se préparer à une loi nationale, surtout grâce à Ralph qui a fait du travail extraordinaire avec eux. Alors, je pense qu'il y a place pour l'espoir, mais il ne faut jamais avoir une majorité Harper. Je ne peux pas assez insister là-dessus. Ce serait horrible. Irving, 10 secondes. 10 secondes, c'est vraiment un champ de mine pour moi. Hein? Mieux vaut laisser les politiciens et le chef répondre à cela. Mais il faut que nous soyons perçus comme un organisme non partisane. Et je crois, nous avons une longue histoire au Canada, avant les Européens, nous, bien avant tous les gouvernements qui ont été au pouvoir. On va essayer de faire de notre mieux avec les régimes actuels. Au Canada, on a un système juridique assez étrange. Les gouvernements n'ont pas à appliquer leurs propres lois s'ils choisissent de ne pas le faire. Donc, la chose qu'il nous faut au Canada, un nouveau contrat de l'eau qui soit exécutoire et qui va vraiment jusqu'au fond, c'est-à-dire jusqu'à la préservation de l'eau pour la jouissance de tous, non pas seulement des riches. Et c'est pour cela qu'il faudrait avoir quelque chose comme une loi sur la fiducie publique. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir encore. Moi, mon espoir repose sur les réussites que nous avons eues depuis 10 ans, les réussites dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire freiner la privatisation de l'eau dans plusieurs communautés du pays. On a réussi parce que les Canadiens et les Canadiennes, quand ils entendent parler de ce genre de problème, ils se lèvent, s'engagent et persuadent les politiciens de laisser tomber ces idées. Alors, je pense qu'il faut répéter ce même modèle sur la scène fédérale. Dire à tous les partis politiques que nous et nos voisins sommes persuadés de la situation, il faut que le dossier de l'eau devienne un enjeu aux prochaines élections. Bon, merci à tous les panélistes pour cette belle matinée.
Cette balado-diffusion a été enregistrée à la conférence sur l'eau Sommet Bleu. Le Syndicat canadien de la fonction publique et le Conseil des Canadiens ont organisé le sommet pour souligner le 10e anniversaire de la coalition aux aguets. Il a eu lieu à Ottawa du 27 au 29 novembre 2009.